ça fait plaisir de voir des gens. On a rouvert depuis maintenant, ça va faire maintenant 10 jours. Et on voit que c'est pas tellement le manque de livres qui attire les gens ici, même si évidemment ils viennent pour acheter des livres, mais ils ont vraiment besoin de contact et on a besoin de se voir et de se parler et d'échanger parce qu'on est des animaux sociaux et donc ça nous a manqué à tous. Donc il y a beaucoup de gens qui rentrent en disant « Ah, quel plaisir de vous retrouver !» Et puis nous on dit aussi « Quel plaisir de vous retrouver !» Enfin bref, tout le monde est content. On est un peu niaiseux, mais bon, c'est pas grave, on se fait du bien. On a beaucoup de monde en plus, donc l'activité est très bonne. Je commence par un petit coup de cœur, une superbe découverte, même si c'est un livre qui est en fait un peu ancien. Donc il s'agit de « Une maison faite d'aube » de N. Scott Momaday, traduit de l'américain chez Albin Michel. Et c'est un classique de la littérature amérindienne qui était sorti en 69, qui a eu le prix Pulitzer. C'est le seul amérindien qui a eu le prix Pulitzer. Et ça a vraiment été important dans le redémarrage, dans la redécouverte de la culture amérindienne. Et grâce à lui et quelques autres, il y a plus d'auteurs amérindiens maintenant qui se sont lancés, des plus jeunes, etc. Lui, il est né en 34, donc voilà, c'est un vieux monsieur. Mais c'est absolument magnifique, c'est une écriture extrêmement poétique. On peut être un petit peu décontenancé, dans la mesure où c'est pas une histoire linéaire, en fait, mais c'est une histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un amérindien qui revient de la Deuxième Guerre mondiale et qui est très perturbé par ce qu'il a vécu et qui n'arrive pas, en fait, à trouver sa place entre la tradition et la modernité. Mais c'est surtout l'histoire d'un pays et d'un peuple avec des incursions notamment du côté du paysage qui sont vraiment fortes et très poétiques. C'est une nouvelle traduction extrêmement bien faite. C'est Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique qui est vraiment extraordinaire, cette collection dirigée par Francis Geffard, qui est vraiment un superbe découvreur de talent. Donc vraiment c'est splendide. Ça commence par un prologue. Dipalo. Dans un pays très ancien que l'on disait éternel, il y avait une maison faite d'aube, de pollen et de pluie. La plaine resplendissait des effets miroitants des argiles et des sables, et les collines alentour étaient multicolores. Des chevaux à la robe rousse, bleutés ou pommelés, paissaient au pied de la sombre immensité sauvage des montagnes. C'était un pays fort et tranquille. Tout y était beau. Abel courait. Il était seul et il courait. Après un départ pénible, il s'était mis à courir avec aisance. La route dessinait une courbe devant lui et s'élevait dans le lointain. Il n'apercevait pas le village. La vallée était grise de pluie et les dunes encore couvertes de neige. L'aube se levait. La première lueur, à peine perceptible, était apparue dans la brume. Puis le soleil avait surgi dans un grand éclat de lumière qui avait transpercé les nuages. La route longeait des buissons de genièvre et de mesquite, et sous la fine croûte blanche, il pouvait entrevoir les angles et les courbes des troncs sombres. La glace luisait, scintillait. Il courait, courait. Extrait de « Une maison faite d'aube », un roman de N. Scott Momaday, traduit de l'américain chez Albin Michel, et je vous donne encore le nom de la traductrice, Joël Rostkowski.
Second coup de cœur.
Encore un roman américain. Cette série de coups de cœur, elle va être que des traductions de l'anglais. Donc là, il y a deux Américains et deux Irlandais, mais pourquoi pas, ça change. Alors là, c'est vraiment un superbe roman très décalé. Ça s'appelle French Exit de Patrick DeWitt et c'est publié chez Actes Sud. Et c'est alors Patrick DeWitt, c'est un auteur étonnant. Qui écrit des choses complètement, vraiment très décalées et assez rocambolesques. Il avait déjà fait un superbe roman qui s'appelait Les Frères Sisters, qui est maintenant en poche aussi, qui était une espèce de western philosophico, violent, humoristique, enfin voilà, qui ressemblait à rien. Et là, c'est pareil. C'est une toute autre ambiance, mais c'est tout autant décalé. C'est l'histoire d'une veuve, une très riche veuve. Son mari est mort il y a une dizaine d'années. Ils sont vraiment, ça se passe de nos jours, mais on dirait que ça se passe au 19e ou début 20e. C'est la très riche bourgeoisie de New York. Et elle a un fils adulte qui doit avoir, je sais pas, une trentaine d'années et qui est complètement immature et qui vit avec sa mère. et un chat qui est la réincarnation de son mari, en fait. Et voilà, le livre commence alors que ça fait des années que le gestionnaire de la fortune lui dit ça diminue, bientôt il y aura plus rien, mais elle travaille pas, elle gagne pas d'argent, elle dépense. Et puis là, il la convoque une dernière fois pour lui dire non mais là, il y a vraiment plus grand chose, va falloir faire quelque chose. Et donc elle décide de vendre le peu qui reste et de partir à Paris avec son fils et son chat, puisque le chat c'est son mari. Donc voilà, il nous entraîne dans des... Ça se passe entre New York et Paris, c'est rocambolesque en diable. French Exit, ça veut dire en... Il y a un jeu de mots, je pense que c'est pour ça qu'ils ont gardé le titre, parce qu'en anglais, French Exit, c'est l'équivalent de filer à l'anglaise. Donc c'est ce qu'elle fait en fait, elle file à l'anglaise et en plus, elle va en France. Donc il y a une double... Et les passages à Paris sont très beaux aussi, on voit qu'il connaît bien Paris, le gars, et c'est pas non plus le Paris trop touristique, mais c'est vraiment, c'est drôle. Ça fait du bien en ce moment de se faire rire avec ça. Et c'est pas seulement drôle. Il y a aussi toujours un petit côté philosophico-humaniste là, mais juste comme ça en passant, qui fait qu'on est vraiment réjouis, quoi.
Vous nous en lisez un petit extrait?
Alors, ça démarre à New York. Toutes les bonnes choses ont une fin, déclara Frances Price. Cette étonnante femme fortunée de 65 ans enfilait des gants en cuir de vachette noire sur le perron d'une maison cossue de l'Upper East Side à New York. Son fils Malcolm, 32 ans, se tenait à ses côtés avec son éternel air négligé et mélancolique. L'automne touchait à sa fin, le soir tombait. Les fenêtres de la demeure étaient éclairées, le son d'un piano vibrait dans l'air, une élégante soirée se déroulait. Frances expliquait son départ précoce à une personne tout aussi nantie qu'elle et toutefois moins charmante, à savoir l'hôtesse. Son nom importe peu, cette dame était affligée. « Tu es sûre de devoir y aller? C'est vraiment si grave ?»« Selon le vétérinaire, ce n'est plus qu'une question de temps, » répliqua Frances. « C'est dommage, nous passions une soirée si agréable. »« C'est vrai, » sentit l'hôtesse pleine d'espoir. « Une soirée si agréable, et je n'ai aucune envie de partir. Mais il s'agit d'une véritable urgence, semble-t-il. Que peut-on y faire ?» Évidemment, c'est bidon, elle part parce qu'elle ne supporte pas la soirée, et voilà, ça démarre comme ça. Alors, c'était French Exit de Patrick DeWitt, traduit de l'américain par Emmanuel et Philippe Aronson, publié chez Actes Sud. Troisième coup de cœur, un roman irlandais d'une autrice irlandaise que j'aime beaucoup, beaucoup, qui paraît en plus chez une éditrice que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle donc Sabine Vespizer, éditeur. Et l'autrice s'appelle Claire Keegan, et le livre s'appelle « Ce genre de petites choses », traduit de l'irlandais, enfin de l'anglais d'Irlande, par Jacqueline Audin. Claire Keegan, c'est une autrice qui fait toujours des très courts romans, c'est presque des grosses, entre la grosse nouvelle et le petit roman. Et c'est toujours d'une finesse absolument incroyable, pas forcément très drôle. Là, c'est quelques jours, en plus c'est de saison, puisque ça se passe pendant les quelques derniers jours avant Noël, en décembre 1985, en Irlande, dans une petite ville. Et c'est l'histoire d'un homme qui est parti d'un peu de rien et qui s'est fait une petite place dans la société de la ville. Il dirige une petite entreprise, il livre du fuel et du bois. Et cet homme-là, il n'a pas eu de père. Sa mère est tombée enceinte quand elle était jeune et, contrairement à d'autres, elle a été rejetée de sa famille, mais elle a été prise en charge par la femme chez qui elle travaillait comme bonne, qui en fait l'a élevé, lui, comme si c'était son petit-fils. Et il va se trouver confronté à la situation d'autres femmes qui sont comme sa mère pendant ces quelques jours. Et en fait, c'est la fin de l'histoire des Magdalene Sisters. C'est la fin de l'époque où il y avait encore en 85 des Magdalene Sisters, c'est-à-dire des endroits, des monastères féminins où on mettait de force les femmes, les jeunes filles, qui avaient fauté, avec ou sans leur enfant. On leur volait parfois leur enfant et elles étaient extrêmement maltraitées et elles étaient employées à la blanchisserie de l'établissement, qui étaient des blanchisseries extrêmement réputées pour la qualité de leur travail. Et en fait, on va le découvrir, cet homme qui est juste ordinaire, mais qui est un homme juste, et qui va se trouver obligé de voir ça, parce qu'en fait, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne sait et personne n'en parle. C'est comme si ça n'existait pas, mais en fait, c'est là. Donc c'est très subtil, c'est très fin, c'est pas du tout appuyé, il n'y a pas des scènes de torture horribles. Enfin bon, on sait très bien qu'elles sont extrêmement maltraitées, mais tout est fait en délicatesse. Et le titre le dit bien d'ailleurs, ce genre de petites choses. Il va rien se passer d'extraordinaire, c'est pas un héros. On le voit vivre au jour le jour et il a réussi dans la vie, il a une famille heureuse et il se trouve confronté à ça, donc on ne sait pas comment il va réagir au début, quoi. En octobre, il y eut des arbres jaunes. Puis les pendules reculèrent d'une heure et les vents de novembre arrivèrent et soufflèrent perpétuels et dépouillèrent les arbres. Dans la ville de New Ross, les cheminées crachaient de la fumée qui retombait et flottait en mèches échevelées, étirées, avant de se dissiper le long des quais, et bientôt la rivière, aussi sombre que de la bière brune, se gonfla de pluie. Les gens, pour la plupart, enduraient les intempéries avec contrariété. Les commerçants et les artisans, les hommes et les femmes au bureau de poste et dans la file d'attente du chômage, sur le marché aux bestiaux, à la cafétéria et au supermarché, dans la salle de bingo, dans les pubs, à la friterie, commentaient tous à leur manière le froid et la quantité de pluie qui était tombée, demandant ce que ça signifiait et s'il pouvait y avoir un présage là-dedans. Car qui pouvait croire que c'était pour la énième fois une journée glaciale ? Les enfants relevaient leurs capuches avant de partir pour l'école, tandis que leur mère, si habituée maintenant à baisser la tête et à se précipiter vers la corde à linge, ou osant à peine étendre la moindre lessive dehors, avait peu d'espoir de réussir à faire sécher ne serait-ce qu'une chemise avant le soir. Puis la nuit s'installait et le gel reprenait et les lames du froid se glissaient sous les portes et coupaient les genoux des rares qui s'agenouillaient encore pour dire le chapelet. Claire Keegan, ce genre de petites choses, traduit de l'anglais par Jacqueline Audin, édité par Sabine Vespizère.